France Inter, le 7-9, intervenu.
Au 01 45 24 7000, avec d'abord Fabrice qui nous appelle du Gers. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Alors ma question est toute simple. On sait que la sortie de l'Europe et donc de l'euro provoquera selon les études une dévaluation de 15 à 50% du capital des épargnants. Donc ma question est toute simple, c'est comment comptez-vous pour ces épargnants et pour tous les Français qui ont de l'épargne compenser cette perte de capital?
Voilà. Écoutez, je ne sais pas, j'ai devant le nez une étude qui a été faite par un économiste de renom qui s'appelle Jacques Sapir, qui dit strictement l'inverse. Voilà, donc je ne crois pas aux chiffres que vous venez de donner, et je pense que ce ne sera pas la catastrophe annoncée. Donc je ne me place même pas dans cette situation, parce que le retour à une monnaie nationale serait évidemment un gage, j'allais dire, de redistribution paritaire entre les monnaies en Europe, et le franc, ou l'euro-franc, comme on pourrait l'appeler, ne créera pas la catastrophe qui est annoncée dans diverses officines.
Elle est annoncée, elle est même anticipée. Il y a des pages dans les journaux spécialisés.
Oui, mais les journaux...
Il y avait une page. Attendez,
oui,
laissez-moi finir. Oui. Non pas de pour dire que ce sera la catastrophe forcément, mais en tout cas pour conseiller, pour donner des conseils aux épargnants sur que faire en cas d'élection
le
de Marine
problème,
Le Pen.
Le problème, c'est qu'on essaye.
Et comment placer son argent à l'étranger à ce moment-là.
On essaye de créer une psychose sur quelque chose qui n'arrivera pas. Vous avez là la liste des 188 économistes, dont plusieurs prix Nobel, qui parlent justement de cette sortie concertée de la monnaie européenne.
Parce que dans cette liste, tous disent que... Oui, ils préconisent la sortie de l'euro.
Ils disent tous que l'euro est une catastrophe et qu'il faut en sortir. Voilà. C'est comme ça. Alors, on peut... Mais encore faut-il qu'il y ait des débats sur cette question. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas faire peur comme on le fait, et de cette manière-là, tenter d'influencer les électeurs. Voilà. Nous sommes, nous, sur des économistes qui pensent strictement l'inverse. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous me dites beaucoup d'officines. Mais ces mêmes officines...
Si, j'ai pas parlé d'officines, moi.
Si, ou de spécialistes, ou de journaux économiques.
Mais vous n'avez même pas laissé finir ma phrase. Je vous parlais de sortie d'épargne à l'étranger, de placement à l'étranger, qui sont conseillés dans les journaux. Comme
tout va monter, l'inflation, etc. Tout ça,
Vous pensez que ça va se passer bien, ça.
Exactement, ça se passera très bien. Mais encore une fois, je ne peux pas, moi, croire des gens, des officines, des journaux qui nous ont expliqué à chaque élection présidentielle que le programme des différents candidats était des bons programmes. Je me rappelle quand même, je vais la liste ici, des 50 économistes qui avaient dit que le programme de M. Hollande était magnifique. On a vu les résultats. Alors, les paroles d'experts ne valent que dans le temps où elles sont exprimées, mais on voit les résultats de la politique et en tout état de cause. La politique des autres a déjà été utilisée pendant les décennies passées. On a vu le résultat.
Donc, essayons autre chose.
Exactement.
Thomas Legrand.
Il y a une chose que je ne comprends pas sur la mécanique de la sortie de l'euro, parce que l'intérêt de sortir de l'euro, et c'est ce que disent la plupart des économistes, les 188 que vous avez cités, l'intérêt de sortir de l'euro, c'est de pouvoir déprécier la monnaie pour être plus compétitif. Donc, si vous dépréciez la monnaie, forcément, et il faudrait avoir le courage de l'assumer, visiblement, vous ne le faites pas, forcément, ça va réduire l'épargne. Puisque c'est mécanique et c'est fait pour ça.
Ça va relancer l'emploi.
Oui, peut-être.
Ça va relancer la croissance.
Peut-être.
Ça va donc faire diminuer les charges. Peut-être. Et donc l'épargne in fine...
Ah, in fine. À partir de quand?
Mais parce tout que de là... suite, pratiquement tout de suite. Écoutez, regardez, moi j'ai des études sous les yeux.
Non, parce que justement, ces économistes...
Vous les avez lues,
Oui. Et ils disent justement que... Voilà. Elles disent justement que ça va déprécier la monnaie, que ça va relancer...
Ce sera une inflation...
En passant par...
Peut-être de 3%. Mais cette inflation de 3% qui serait, entre guillemets, subie, dans le même temps, permettrait entre 1,5 million et 3 millions d'emplois supplémentaires. Je pense que le jeu, quand même, en vaut la chandelle.
Thomas Legrand. Damien nous appelle de Mayenne. Bonjour Damien.
Bonjour Monsieur Cohen. Alors d'abord, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Le matin à la traite, c'est agréable.
Merci. Donc, la traite.
À la traite des vaches.
La traite des vaches.
Voilà. Moi j'ai une question pour Monsieur Adio. Je suis jeune agriculteur installé en production laitière. Je vends mon lait à Lactalis. Et je voulais savoir, avec vos discours un peu anti-européens, notre propre agriculture, machin, en sachant que l'agriculture est fortement tournée vers les exportations, malgré tout ce qu'on peut dire, je voulais savoir, globalement, si vous pensez, et si vous appliquez votre politique agricole, comment on fait pour survivre? Parce que, par exemple, j'étais à une réunion d'organisation de producteurs, et il y a un grand responsable de Lactalis qui nous a dit, globalement... quand il pose la question, si le Front National passe, on ne sait pas ce qu'on va faire de 40% du lait. Donc, en sachant que c'est 1% de surproduction mondiale qui a provoqué une baisse de plus d'un tiers du prix et provoqué la crise laitière, comment on fait si vous pensez?
Écoutez, merci Damien.
Je pense que Lactalis défend ses intérêts et pas ceux des agriculteurs. Je rappelle que l'argent que l'on vous donne, cher monsieur, au titre des subventions et du prix que l'on vous garantit, c'est votre argent qui passe par la tuyauterie européenne et qui revient vers la France dans divers mécanismes. Nous donnons à l'Europe chaque année 21 milliards. L'Europe nous en restitue 13, politiques agricoles communes comprises, nous sommes, j'allais dire, contributeurs nets d'à peu près 8 milliards. Eh bien écoutez, l'argent que vous recevez aujourd'hui par l'Europe, elle vous sera donnée directement par les autorités françaises et même certainement beaucoup plus parce que nous privilégierons les productions locales, les circuits courts, la qualité alimentaire au détriment précisément de la production à outrance, de la qualité et quelquefois, il faut bien le dire, d'un déficit écologique majeur dans ses importations et dans ses exportations.
La question ne portait pas sur l'argent de l'Union européenne qui, au passage, finance aussi d'ailleurs largement le Front national à travers ses assistants parlementaires, mais ça portait sur la fermeture des frontières.
Mais l'argent aussi, il finance France Inter, monsieur Cohen, l'argent des impôts français, autant que l'Union européenne.
Oui, bon, d'accord. Nous, ça sert. Ça sert à ce que.
Moi, je le reconnais, j'en ai pas honte. Vous savez, hein. Je fais de la politique, donc je le reconnais. Voilà.
Bon. C'était sur la fermeture des frontières et sur l'arrêt des exportations.
Ça ne changera rien.
Ah bon.
Simplement, et c'est là où ça changera beaucoup de choses, dans la qualité, dans la manière de protéger les exploitations agricoles, notamment les petites exploitations, au détriment des grosses. Et ça empêchera surtout des grands groupes industriels ou agroalimentaires de se faire des grandes marges de bénéficiaires sur le dos précisément des petits agriculteurs.
Cyril nous appelle de Paris. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, j'avais une question pour Monsieur Alliot. Étant donné que quand on interroge un peu les Français, on se rend compte que le FN est porté par des gens qui sont déterminés à voter pour lui, une base électorale solide, déterminée. Comment est-ce que M. Alliot se sentirait s'il devait affronter, si sa candidate devait affronter au second tour l'autre formation qui est elle aussi déterminée, à savoir celle de Jean-Luc Mélenchon, et pour le coup qui a peut-être un programme un petit peu plus carré pour ce qui est de la question européenne, la question sociale en particulier. Voilà, merci.
Écoutez, je ne sais pas si c'est très carré, c'est quand même un peu flou sur la question européenne. Nous sommes clairs par rapport à l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon, un peu moins, même si c'est vrai dans les votes, notamment au Parlement européen, bien souvent, nous votons de la même manière les textes qui sont contraires à nos services publics, à notre agriculture, à notre économie. Donc je pense qu'il y aurait un débat sérieux entre deux candidats hors système, encore que M. Mélenchon, par certains côtés, quand même donne pas mal de gages, je trouve, moi, au système auquel il appartenait par le passé.
Mais encore une fois,
j'aborderai... ils sont jamais clairs, les gens du Front de Gauche, avec le Parti Socialiste. Parce qu'ils passent leur temps à leur taper dessus. Mais moi, je vais vous donner, j'en ai été un peu la victime. À Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, les gens du Front de Gauche au deuxième tour sont allés voter comme un seul homme pour Mme Delga et le Parti Socialiste, et même en négociant des places sur la majorité de Mme Delga. Mais ils nous font le coup depuis 20 ans. Ce sont des gens qui disent les socialistes ont vendu le prolétariat, etc., etc. Et puis au moment où il faut vraiment choisir un schéma clair de politique, eh bien, en général, ils n'arrivent pas à franchir ce pas qui pourrait être pour eux révolutionnaire.
Jean-Luc Mélenchon, lui, s'oppose à
Il s'oppose à rien du tout. Les majorités aujourd'hui dans les régions de gauche, dans les municipalités de gauche, dans les départements de gauche, sont en général appuyées par les élus du Front de Gauche.
Gérard, au Standard d'Inter, qui nous appelle de Rieck-sur-Belon. Où est-ce, Gérard ? Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Rieck-sur-Belon, c'est dans le Finistère Sud, les fameuses huîtres de Belon.
Très bien.
Il en reste encore
vous écoutons.
Un peu. Je voudrais dire à M. Alliot, quelle est la différence entre vous, enfin quand je dis vous, c'est le FN et Fillon, dans le sens où pour moi, ça tient, enfin la différence c'est une feuille de papier à cigarette, et ce qui me fait peur dans le même temps, enfin pour tout vous dire, moi je suis pro Mélenchon, donc je sais pour qui je vais voter, tout au moins au premier tour. Ce qui me fait peur, c'est de vous retrouver, vous, avec Fillon. Parce que quand je lis un petit peu la presse en ce moment, notamment Libé, pas plus tard qu'hier, je crois, hier, on est lundi, mais samedi, La première page de Libé, et si c'était lui, avec la photo de Fillon, ça me fait un peu peur. Je serais tenté de dire qu'à un moment donné, le système, c'est vrai qu'on en a tous marre, hein, que ce soit le PS, les partis droites et compagnie. Et en fait,
alors, une question. Bah,
peut-être que pour casser la baraque, pourquoi pas voter FN, hein, après tout.
Ah, quand même.
Au point où on en est...
Ça s'appelle un vrai vote révolutionnaire.
Si c'est pour faire une révolution, allez, on y va, quoi. On y va, fond la caisse.
Bon, bah, vous avez changé de vote en... d'un bout à l'autre de votre intervention, là, non ?
Mais genre, on en a marre, on en a franchement marre. Et c'est une histoire, c'est histoire de casser la baraque, quoi. Si ça dure 6 mois, c'est bon, quoi, ça suffit. Mais
Louis Alliot, merci Gérard, Louis Alliot.
Mais rien, oui, c'est, je pense qu'il y aura une partie des gens qui votent très à gauche, qui veulent vraiment changer le modèle de la société actuelle, qui n'hésiteront pas en cas de second tour, Marine Le Pen Macron, Marine Le Pen Fillon, je pense, à apporter des suffrages à Marine Le Pen, voilà, je crois que c'est vrai.
Question qui peut paraître anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, de Thierry Dumont. Pourquoi, quand on se présente comme laïque, proposer 144 propositions, demande Thierry, puisqu'il fait référence aux explications de Marine Le Pen qui a dit...
la création du monde.
En 6 jours, ça fait 144 heures. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'elle a expliqué le nombre de 144.
C'est vrai, mais c'est un peu tiré par les cheveux, là, par rapport à la laïcité. Voilà. La laïcité, c'est dans l'espace public, c'est la séparation, j'allais dire, des églises et de l'État. Voilà, c'est autre chose. Maintenant, c'est un clin d'œil. Voilà.
Un clin d'œil religieux.
Mais oui, un clin d'œil religieux. Je vous signale que notre société entière, elle est basée sur ces valeurs de civilisation qui sont, en ce qui nous concerne, les civilisations judéo-chrétiennes.
Une question de Thomas Legrand.
J'ai écouté Marine Le Pen attentivement hier. Elle était à Bordeaux et son discours était parsemé de propos très écologiques. Elle était très écologiste. Elle voulait des circuits courts. Est-ce que vous croyez au réchauffement de la planète et est-ce que vous pensez que Donald Trump, en contrant le réchauffement de la planète,
D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas l'ambassadeur de Donald Trump. Hein. Bon. Mais sur le réchauffement...
Vous avez Front National et Marine Le Pen particulièrement salué son élection.
Ah bien sûr, ah oui, mais ça c'est autre chose. Heureusement. Non, mais à un moment donné, il faut saluer les changements lorsqu'on pense qu'ils vont être bénéfiques sur la politique internationale, je le répète.
Et vous êtes convaincu que ça sera bénéfique pour les États-Unis et la politique internationale ?
Je pense que ça sera bénéfique pour nous d'abord, parce que ce que font les États-Unis par rapport à eux, ça les regarde. Moi, je pense que l'interventionnisme à outrance des États-Unis sur l'ensemble de la planète sera pas tout à fait...
En matière de réchauffement de la planète, ça ne sera pas bénéfique pour nous.
Je pense qu'il y a une part, effectivement, de l'homme qui influence directement la planète et donc le réchauffement climatique. Et donc, tout ce qui va dans un sens plus écologique...
La COP21, la COP22, il faut les signer ?
Oui, mais elles sont signées d'abord. La France l'a signée, on ne va pas revenir en arrière.
Non, mais Trump peut revenir en arrière.
Oui, mais d'accord, mais je ne suis pas Trump et on est aux États-Unis.
Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec Trump là-dessus ?
Oui, bien sûr, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec Trump là-dessus. Voilà, oui. Mais je vais vous dire, ce n'est pas sûr qu'il ne la signe pas d'ailleurs, hein, puisque j'ai vu que déjà il commençait à en discuter. Donc on verra bien.
Oui, on n'est pas sûr de grand-chose avec Trump, visiblement.
Écoutez, vous remarquez, on n'est pas sûr de grand-chose avec personne qui a gouverné la France depuis 40 ans.
Un mot encore sur l'affaire des assistants parlementaires européens.
On y revient.
Vous avez fait allusion tout à l'heure.
Vous dites,
je revendique l'idée que oui, ça finance la politique et ça finance la vie des partis.
Je dis que c'est de l'argent public et que, en tant que député européen, moi, je vis, j'allais dire, de cet argent public du contribuable dont je suis par ailleurs aussi. Mais c'est aussi cela.
Donc, quand Valérie Saint-Just dit il y a quelques années, on peut faire vivre le Front National grâce à l'argent du
c'est pas ça la vérité.
Du Parlement européen.
Quand vous avez 4 cadres supérieurs du Front qui sont salariés par le Front et donc qui occupent une masse salariale importante, qui deviennent députés européens, eh bien par là même vous libérez cette masse salariale et financière au bénéfice d'autres choses.
Expliquait qu'il y avait une stratégie à avoir pour faire financer
le
fonctionnement du parti.
N'allez pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je vous dis, c'est très exactement ce qu'il disait.
C'est dans Le Monde la semaine dernière.
Un certain nombre de salariés vont être députés. Ça libérera autant pour faire autre chose pour le Front. Voilà très exactement ce qu'étaient les propos de Valérie Saint-Just dans sa note.
Chacun peut lire cette note qui a été reproduite et révélée par Le Monde
Pas révélée.
Elle n'a pas été révélée.
Qui a été donnée très certainement par la justice ou par les par certains policiers à la presse en violation du secret de l'instruction.
Elle n'était pas publique, elle a donc été révélée par
en violation du secret de l'instruction et donc en violation de la loi.
Donc il est... vous nous invitez à la lire quand même.
Voilà. Ah, mais de toute façon, on n'a pas le choix. À la limite, c'est comme ça.
Chacun se soigner. 9h-5, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre
invité. Oui, bonjour Louis Alliot. Le Front National a fait des réseaux sociaux un outil de promotion, de diffusion, Facebook, Twitter, mais aussi YouTube, sont des messages et des contenus sans doute plus libres, mais tellement libres que parfois ils nous échappent, hein. On peut pas tout contrôler.
Mais ils m'échappent souvent d'ailleurs.
Voilà, bah, c'est l'objet de ma question. J'ai remarqué que des têtes d'affiche du FN, vous n'êtes pas le plus actif ni le plus suivi. Honnêtement, est-ce que vous vous en méfiez, vous ?
Beaucoup, beaucoup, parce que j'en ai été beaucoup la victime. Et qu'en général, c'est un défouloir. Je ne parle pas des vidéos qui sont, j'allais dire, encadrées par le Front National et les services du Front National. Mais en général, ailleurs, dans les milieux, on va dire, satellites, vous êtes souvent la victime, les animateurs de radio, de télé aussi, d'immondices permanents.
La fachosphère.
Non, non, et la communistosphère, ou tout ce que vous voulez, les gens derrière leur écran, dans la lâcheté de l'anonymat, ça c'est moi, c'est ce qui me... Dans la lâcheté de l'anonymat, se permettent d'insulter les gens, de raconter n'importe quoi. Voilà. Ça, je trouve ça abominable, c'est le côté d'Internet que je trouve abominable, mais il y a un autre côté, beaucoup plus utile, qui est de rendre des informations plus près de la réalité, et qui conteste quelquefois la parole d'un certain nombre de médias orientés, voilà. Il faut faire le tri. Et c'est pas facile, je vous l'avoue.
Ah, c'est pas facile, parce non, que Marine Le Pen récemment a dit n'allez délaisser les médias traditionnels, regardez, c'est informez-vous sur Internet.
Ah non, mais ça, d'accord.
A-t-elle dit aux militants.
Mais oui, mais c'est regardez la presse, faites le tri aussi. Mais dans les médias sociaux, je regrette, il faut aussi faire le tri. Il y a quelque chose, des choses utiles, valables, mais il y a des choses totalement inutiles, insultantes, et quelquefois même, je me pose la question de savoir pourquoi on tolère cet anonymat précisément dans un certain nombre de comptes de sociaux.
Merci Louis Alliot d'être venu ce matin au micro de France Inter.